Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition de 19h30 en universel du mercredi 9 mai 2018. Abdourahmane Dia en direct de Washington. Voici les titres. En Centrafrique, l'appel à la journée ville morte n'a pas été bien suivi à Bangui. Nouvelle épidémie d'Ebola en RDC, le dernier bilan fait état de 17 morts.
Les gens sont en train de mourir. Donc on a déployé les équipes samedi passé. Ils sont revenus dans la soirée, la nuit. Donc le dimanche, on a eu des éléments. Donc ils ont amené des prélèvements.
Quatre juges ghanéens accusés d'avoir accepté des pots de vin ont été suspendus. Et au lendemain de la sortie des États-Unis de l'accord de Vienne sur le nucléaire, les Européens se sont engagés à tout faire pour sauver le texte. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous en RCA. Faible mobilisation ce mercredi autour du mot d'ordre de la société civile appelant à une journée ville morte. Les activités se sont déroulées normalement dans plusieurs secteurs de la capitale. Sur place à Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
Contrairement à ce que la société civile considère d'une réussite la semaine dernière, ce nouvel appel à l'observation d'une journée ville morte n'a pas eu un écho favorable auprès de la population. Au centre-ville, des banques, des magasins, des marchés, des services de l'administration publique et privée ont ouvert leurs portes et la circulation était fluide sur les avenues. Le seul secteur paralysé aujourd'hui est l'éducation, car la quasi-totalité des établissements scolaires et universitaires étaient restés fermés. Le groupe de travail de la société civile a appelé à l'observation d'une nouvelle journée ville morte ce mercredi pour protester contre la persistance de la violence et l'incapacité des autorités et de la MINUSCA à protéger la population. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Les autorités congolaises font état de 21 cas d'Ebola depuis le 3 mai dernier, dont 17 dans la province de l'Équateur. Selon le ministère de la Santé, l'équipe médicale qui s'est rendue sur place est appuyée par l'Organisation mondiale de la santé et Médecins sans frontières. Nous y reviendrons en partie magazine. Par ailleurs, la République démocratique du Congo a lancé un audit de son fichier électoral pour les scrutins du 23 décembre. Certains Congolais restent méfiants sur le processus électoral. L'audit du fichier électoral, qui compte quelque 40 millions d'électeurs, a été confié à l'Organisation internationale de la francophonie. L'opération doit durer jusqu'au 25 mai. 6 millions de doublons ont déjà été retirés des listes à l'issue du recensement qui a pris fin le 31 janvier. Le procès du coup d'État de septembre 2015 au Burkina Faso a repris ce matin après plus d'un mois de suspension, mais il a aussitôt été renvoyé au 25 mai prochain. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé sont les principaux accusés. Lamine Traoré nous fait le point à Ouagadougou.
Le procès a été reporté au 25 mai prochain à la demande des avocats de la défense, nouvellement commis d'office. Début avril, des avocats d'une douzaine d'inculpés s'étaient déportés du dossier. Les nouveaux avocats pour assister ces inculpés veulent du temps pour prendre connaissance des pièces de la procédure. Maître Arnaud Sampébré fait partie de ces avocats de la défense.
Nous estimons que le délai qui nous a accordé pour prendre connaissance du dossier n'est pas suffisant, mais nous ne doutons pas un seul instant qu'à cette audience, il y aura forcément un autre renvoi. Il y a eu un groupe de 8 accusés qui n'avaient pas de conseil.
Oui, un autre renvoi est encore possible, le 25, car à l'audience de ce mercredi, des avocats se sont encore déportés, laissant près d'une dizaine d'inculpés sans conseil. Et il y a eu aussi 3 demandes de liberté provisoire. 2 ont été rejetées. Une renvoyée à la prochaine audience le 25 mai. Le tribunal s'est montré incompétent à la demande de sortie du territoire pour raison de santé du journaliste Adama Ouédraogo, également inculpé. Le coup d'État de septembre 2015 au Burkina Faso a fait près d'une quinzaine de morts et au moins 200 blessés. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé et plus de 80 personnes sont les présumés inculpés. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le principal parti d'opposition au Nigeria a déclaré que la santé du président Muhammadu Buhari l'empêche de diriger le pays. M. Buhari s'est de nouveau rendu à Londres pour des raisons médicales. Dans un communiqué, le PDP, le Parti populaire démocratique, écrit que cette nouvelle absence du chef de l'État pour raison de santé démontre qu'il ne va pas bien et qu'il n'est pas en mesure de gérer les affaires de l'État. L'opposition togolaise a annoncé l'annulation de ses 2 jours de marche qui devaient démarrer aujourd'hui et demain, aujourd'hui à Lomé et dans plusieurs villes du pays. Le gouvernement n'avait pas interdit ces manifestations, mais avait imposé des itinéraires que l'opposition refuse d'emprunter. Quatre juges ghanéens accusés d'avoir accepté des pots de vin ont été suspendus. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi la présidence, un événement qui marque les dernières retombées d'un scandale de corruption au sein du système judiciaire ghanéen. Le président Nana Akufo-Addo s'est prononcé après avoir reçu les conclusions d'un comité de discipline qui avait engagé des poursuites à l'encontre de 12 juges de la Haute Cour du Ghana. Les quatre juges suspendus avaient été enregistrés sur le fait en 2015 par un journaliste local alors qu'il leur proposait des faux au pot de vin pour influencer des affaires en cours.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les pays européens signataires de l'accord de Genève sur le nucléaire iranien ne veulent pas baisser les bras après le retrait des États-Unis. La décision annoncée hier par Donald Trump continue de susciter des réactions. Yacouba Ouedraogo.
Le président iranien Hassan Rouhani a accusé son homologue Donald Trump de pratiquer une guerre psychologique. L'ayatollah Ali Khamenei a exigé des Européens des garanties pour que son pays reste dans l'accord. Dans un communiqué commun, le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et la première ministre britannique Theresa May se disent déterminés à assurer la mise en œuvre de l'accord. Ils disent vouloir maintenir les avantages économiques pour la population iranienne. Moscou a fait part de sa déception et de son inquiétude. La Turquie dit craindre de nouveaux conflits tandis que la Syrie a réaffirmé sa solidarité à Téhéran. C'est une erreur grave selon l'ex-président Barack Obama. En revanche, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié de courageuse la décision du président Trump, tout comme le Royaume d'Arabie Saoudite, grand rival de l'Iran. L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé que l'Iran remplit ses engagements en matière de nucléaire, conformément à l'accord de 2015.
Un responsable de l'armée irakienne a affirmé que le chef du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, se trouve en territoire syrien, le long de la frontière avec l'Irak et se déplace accompagné d'une poignée d'hommes. Selon ce général, le calife autoproclamé de l'EI se déplace accompagné de 4 ou 5 personnes, dont son fils et son gendre. En février, un haut responsable du ministère irakien de l'Intérieur avait affirmé que le chef du groupe État islamique était vivant et soigné dans un hôpital de campagne dans le nord-est de la Syrie, après avoir été blessé dans des raids aériens. 2 missiles balistiques tirés par les rebelles houthis du Yémen ont visé ce mercredi la capitale saoudienne Riyad, selon le porte-parole de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite et qui intervient militairement contre ces insurgés. La défense antiaérienne saoudienne a intercepté un missile et l'autre est tombé dans une zone désertique au sud de Riyad, a précisé le colonel turc al-Maliki, qui accuse les houthis de viser les zones habitées de Riyad. Le président Donald Trump a annoncé ce mercredi la libération des 3 Américains qui étaient détenus par la Corée du Nord. Le secrétaire d'État Mike Pompeo, qui était à Pyongyang, les ramène aux États-Unis. Le point avec Mary Benson.
Le président Donald Trump a déclaré dans un tweet que les 3 Américains qui étaient détenus en Corée du Nord ont été libérés. Ils reviennent aux États-Unis en compagnie du secrétaire d'État Mike Pompeo, qui a été reçu hier à Pyongyang. La date et le lieu du prochain sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un ont enfin été fixés. Les 3 personnes libérées arrivent demain matin à Washington. Kim Hak-song travaillait pour l'Université des sciences et de la technologie de Pyongyang lors de son arrestation en mai 2017. Kim Sang-duk, aussi connu sous le nom de Tony Kim, travaillait pour la même université. Il a été arrêté en avril 2017 à l'aéroport de Pyongyang alors qu'il rentrait chez lui. En avril 2016, Kim Dong-chul a été accusé de subversion et espionnage. Cet homme d'affaires et pasteur âgé d'une 60aine d'années a été condamné à 10 ans de travaux forcés.
Ici aux États-Unis, Gina Haspel, choisie pour diriger l'agence américaine de renseignement, est interrogée par les sénateurs de la commission des renseignements. Elle a déclaré que la CIA ne reprendra pas le programme d'interrogatoire poussé introduit après les attentats du 11 septembre et assimilé à de la torture. Je peux vous assurer que mon engagement personnel est sans réserve que sous ma direction, la CIA ne reprendra pas un tel programme d'interrogatoire et de détention, a-t-elle affirmé. Elle est accusée d'être impliquée dans des interrogatoires où des militants présumés d'Al-Qaïda avaient été torturés en 2002. Et puis le directeur de Human Rights Watch en Israël et dans les territoires palestiniens accuse les autorités israéliennes de chercher à faire taire l'ONG en l'accusant de soutenir le boycott d'Israël. Tel Aviv lui donne 14 jours pour partir. Le ministère israélien de l'Intérieur a annoncé mettre fin au permis de séjour d'Amal Shakir, ressortissant américain, estimant qu'il est depuis des années un militant du BDS soutenant le boycott d'Israël de manière active, une accusation qu'il rejette. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par Eric Manerekiza.
La BAD et la Banque Centrale Populaire du Maroc vont investir 100 millions de dollars pour développer le commerce intra-africain. L'accord de financement permettrait de booster les relations commerciales entre les entreprises marocaines et d'autres entreprises africaines. Plusieurs secteurs, notamment l'eau, les infrastructures et l'énergie, seront privilégiés. Le commerce intra-africain, dans les échanges commerciaux, reste l'une des plus faibles au monde, avec 16% en moyenne. La BAD veut investir jusqu'à 700 millions de dollars pour renforcer ses flux commerciaux. En mars dernier, 44 pays ont signé l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine pour créer un marché unique. Le gouvernement du Nigeria envisage l'émission de 70 millions de cartes d'identité pour faciliter l'accès de ses citoyens aux services financiers. Ce programme permettra au gouvernement d'augmenter les données du fichier d'identification nationale et prendra en compte environ 30 millions de Nigériens. Le programme va aussi améliorer l'efficacité des services, notamment les impôts et l'assurance maladie. Ethiopian Airlines négocie des accords de partenariat pour le lancement de compagnies aériennes dans 5 pays africains et prévoit de porter le nombre de ses appareils à 150 d'ici 2025. La compagnie veut s'implanter au Mozambique, au Tchad, à Djibouti, en Guinée équatoriale et en Guinée. Elle envisage de passer des commandes pour 13 nouveaux Boeing 787 et 6 Airbus A350 avant la fin de l'année en cours.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman, bonsoir à tous.
15e tour cyclisme du Bénin, encore un trio burkinabé pour la seconde étape.
Effectivement, une fois encore, le Burkina Faso s'est illustré sur ce Tour du Bénin, la seconde étape ce mercredi entre Djogou et jusqu'à l'arrivée en 3h17. Connaît devant ses compatriotes Abdulaziz Nikema, deuxième, Safo Bikenga, troisième, endosse au passage le maillot jaune de leader. A noter que le premier béninois de la course, Bashiki, a terminé à la sixième place de l'étape. La troisième étape, c'est ce jeudi entre Kilibo et Dassazoumbé, d'une distance de 135 km.
Gros intérêt autour de Yaya Touré en Angleterre.
En fin de contrat avec Manchester City, le milieu de terrain international ivoirien Yaya Touré pourrait rester en Première Ligue. C'est du moins ce que croit savoir le Daily Mirror. Le journal affirme que l'ancien joueur de Monaco et de Barcelone susciterait l'intérêt de trois écuries anglaises, Everton, Burnley et Wolverhampton, qui sera de retour parmi l'élite la saison prochaine.
Il y a des sanctions en Espagne.
L'international espagnol Sergi Roberto, exclu dimanche dans le Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, eh bien il a été suspendu 4 matchs pour son agression sur le défenseur madrilène Marcelo. Dans sa décision, le comité de compétition de la Fédération espagnole a considéré que le geste du milieu de terrain était constitutif d'une agression n'ayant pas entraîné de blessure. On rappelle qu'il ne reste que 3 matchs en Liga pour le Barça, déjà champion. Le prochain, ce sera contre Villarreal en match en retard de la 34e journée.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Stephen Curry n'aura pas tremblé pour amener les Golden State Warriors à vaincre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Une victoire 113-104 grâce notamment à 28 points de Stephen Curry et 24 de Kevin Durant. Les Warriors qui rencontreront en finale de la conférence Ouest Houston. Le choc tant attendu aura lieu puisque Houston a éliminé les Utah Jazz. Une quatrième victoire sur les 5 matchs, 112-102 hier soir.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Diab, toujours en votre compagnie. On passe au dossier du jour. Que va-t-il se passer après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien? Pour Walid Farez, ancien conseiller aux affaires étrangères du président Trump, les États-Unis vont remobiliser tous les mois à venir, dans les mois à venir, leurs partenaires pour une renégociation de l'accord. Walid Farez, interrogé par Bagasikoura.
La position de Trump est de générer, de créer des nouvelles données qui vont obliger les partenaires internationaux à revenir sur la table de négociation, pas aller vers une confrontation, mais de produire un document plus équilibré.
En Europe et aussi en Iran, on s'active à ce que l'accord soit maintenu. Comment vous comptez convaincre les Européens?
L'Iran, bien sûr, le commandement iranien va continuer à vouloir profiter de l'accord, parce que c'est surtout à travers ce traité que l'Iran est en train de pouvoir faire rentrer des sommes financières et du cash, comme on dit. Les Européens, eux, savent que les États-Unis s'opposent à ce traité, au traité initial, mais savent aussi que les partenaires arabes des États-Unis aussi sont gênés. Donc les Européens, maintenant, ils vont continuer à faire leurs obligations financières en ce qui concerne l'Iran. Probablement, au bout de 6 mois, il va y avoir de nouvelles tractations, de nouvelles négociations, parce que, en fin de compte, ce traité n'était pas à propos de sécurité, mais à propos d'arrangements financiers, la réalité sur le terrain. Parce que la question nucléaire elle-même, personne ne s'y oppose. Que l'Iran ne fasse plus de bombes, c'est quelque chose où il y a beaucoup de consensus. Mais maintenant, il faut trouver donc un nouveau équilibre entre ces trois parties, l'Europe, les États-Unis, les pays du Proche-Orient, pour pouvoir revenir sur la table. La Russie, je pense, va rester là où elle était, donc faire du business avec l'Iran, il n'y aura pas de problème, y compris la Chine.
Il y a des tensions à plusieurs niveaux avec les partenaires européens, d'abord au niveau de l'OTAN, ensuite au niveau commercial avec les tarifs sur l'acier. Et maintenant, sur l'accord nucléaire, qu'est-ce que vous dites à ceux qui accusent Donald Trump d'avoir saboté les relations transatlantiques?
C'est son opposition. Ce n'est pas des partis neutres. Ils l'ont toujours fait depuis la campagne, je me rappelle très bien. Maintenant, bien sûr, l'accord iranien est autre chose, parce qu'il y a des intérêts financiers. Les banques européennes, les compagnies européennes ont un intérêt à sauvegarder. Vraiment, s'il leur est offert une autre voie de pouvoir accommoder, ils le feront. Mais je pense que c'est un peu tôt maintenant. L'Amérique va se réorganiser, surtout d'une façon au niveau interne avec le Congrès. On a des élections qui viennent dans quelques mois. Et après cela, je pense qu'il va y avoir un sommet euro-américain et arabe pour ramener les choses dans le bon sens au Proche-Orient.
C'était Walid Farez, ancien conseiller aux affaires étrangères du président Trump.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Cameroun, le gouvernement appelle les populations à dénoncer les actes de corruption et les fonctionnaires fictifs. Elles peuvent appeler des numéros verts au ministère des Finances et à la Commission nationale anticorruption. L'opération lancée depuis le début du mois dernier suscite un certain engouement populaire. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jultap.
Allô, bonjour.
Dans une salle de la Commission nationale anticorruption, le téléphone ne cesse de sonner. C'est ici que sont enregistrés au numéro vert 1517 les appels des Camerounais qui dénoncent les actes de corruption. Sous anonymat, deux agents de la Commission nationale anticorruption dressent le bilan des deux premières semaines de mise en service de ce numéro vert.
Nous sommes à en moins 100 appels par jour venant de toutes les parties du territoire national et des appels qui dénoncent des faits de corruption, des infractions assimilés à la corruption.
D'une manière générale, nous recevons des appels de personnes qui dénoncent pour la plupart la corruption dans les services publics ou des officiels corrompus. Au-delà de cette catégorie d'appelants, nous avons des gens qui dénoncent la corruption dans les marchés, les pratiques de corruption instaurées par des responsables de ces marchés.
L'initiative d'un numéro vert à la Commission nationale anticorruption a coïncidé avec celle du nouveau ministre des Finances. Ce dernier a invité les citoyens à dénoncer des fonctionnaires fictifs en vue d'assainir le fichier solde de l'État du Cameroun. Cyril Edou Elor, directeur général du budget au ministère des Finances.
Vous pouvez venir donner l'information que telle personne, je le connais, il n'est pas au poste, mais il perçoit la solde. Ou bien telle personne est décédée, mais ses ayants droit perçoivent frauduleusement sa solde. Ça peut être aussi certains qui camouflent ou bien qui perçoivent les salaires de d'autres personnes.
L'appel à dénonciation des corrompus, corrupteurs et fonctionnaires fictifs au Cameroun est cependant diversement apprécié à Yaoundé.
Il faudrait impérativement dénoncer ce genre d'actes de corruption qui plongent notre pays davantage dans la pauvreté, dans le chômage.
Je suis prêt à le faire n'importe quel moment. Il faut que je dénonce à ceux qui ne travaillent pas.
Moi, je ne suis pas prêt à dénoncer un fonctionnaire fictif. C'est la mascarade du gouvernement. Ce sont eux qui octroient le masque à ceux-là qui restent au quartier et mangent l'argent de l'État.
Et pour les cas de corruption, vous appelez quand même au 15-17.
Je ne suis pas d'administration pour appeler.
À la Commission nationale anticorruption, les premières mesures ont d'ores et déjà a été prise après dénonciation de quelques cas de corruption, comme l'explique un cadre de la CONAC.
Quand c'est le cas de corruption qui se passe, il y a ces cas d'intervention qui peut avoir lieu si c'est dans les environs de Yaoundé. Mais si ça se passe hors de Yaoundé, on est en contact direct avec des inspecteurs régionaux de service. Et puis, il y a d'autres dénonciations qui sont tellement spécifiques qu'on transmet directement à certaines administrations. Pour ce genre de cas, on est en train de le recenser pour transmettre au ministère de la Finance sur ce qu'il y a un recensement de fonctionnaires en cours.
Après dénonciation, quelques fonctionnaires du ministère des Finances sont depuis quelques jours en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé. Emmanuel Jules Yaoundé, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Les autorités congolaises et leurs partenaires organisent aujourd'hui la réponse face à la nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui s'est déclarée dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo et qui a déjà fait 17 morts. Eddy Isongo a joint le médecin épidémiologiste de la province de l'Équateur, Dr José Mozembela.
Le village Kokoïmpengue est à 45 km du bureau central. C'est là que se vit le phénomène de la maladie à virus Ebola. Nous sommes en Bandaka, chef lieu de l'Équateur. Bikoro, c'est l'une des zones santé de la province. Les gens sont en train de mourir. Donc, on a déployé les équipes samedi passé. Ils sont revenus dans la soirée, la nuit. Donc, le dimanche, on a eu des éléments. Donc, ils ont amené des prélèvements, 5 échantillons prélevés. On a trouvé 3 au centre santé de Kokoïmpengue dans ce village et 2 malades aussi à l'hôpital général de l'hôpital de Bikoro. Donc les 5 échantillons de malades trouvés actifs ont été envoyés à l'INRB et parmi lesquels 2 résultats sont revenus positifs. Donc à l'heure actuelle, on est à pied d'œuvre. Il y a une équipe déjà des experts sur terrain depuis ce matin. Il y a aussi un appui du niveau central, une délégation arrivée, donc du ministère de la Santé avec le partenaire. On est en train de travailler pour renforcer la lutte contre ces fléaux, donc la maladie à virus Ebola.
Est-ce que la population est informée de ce qu'il faut faire quand on voit quelqu'un présentant des signes de cette maladie?
La sensibilisation doit être continue. Je pense autrefois, je pense que ça fait des années, et donc ce que nous vivons maintenant est nouveau dans le contexte de la province de l'Équateur actuelle. La première fois, bon, ça il faut remonter dans l'historique quand la province était encore une depuis longtemps. Alors maintenant là, que ce phénomène est survenu, donc tout est en marche pour la réponse en rapport avec la prise en charge, la communication à la population pour prendre des précautions pour ne pas être atteinte par la maladie. Donc le premier phénomène, c'était à Yambuku, donc à plus de 600 km d'ici. Le dernier phénomène, c'est à La Chuapa, maintenant comme province, à plus de 500 km aussi d'ici. Donc ce que nous vivons maintenant est nouveau dans le contexte de la province de l'Équateur actuelle.
On sait que la population de ces côtés vit entre autres de la chasse et les animaux sont les vecteurs porteurs de ces virus. Qu'est-ce que vous leur dites? Quel est le comportement à avoir quand ils vont en chasse par exemple?
Ce qu'il faut savoir, que nous sommes dans la forêt équatoriale, il y a le gibier, il y a tout cet écosystème qui est favorable à l'éclosion de cette maladie. Ce que nous devons faire, c'est tellement renforcer la population, la communication, la sensibilisation à la population pour prendre des dispositions qui s'imposent. Je pense qu'avec la déclaration des ministres, avec la dit, donc nous, toutes les dispositions sont prises pour mettre fin à la maladie.
C'était Dr. José Mozembela, médecin épidémiologiste de la province de l'Équateur.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités, des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Sims Lumami. À la console, Thomas Blondin. Présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Rien n'est plus important pour l'avenir de l'Afrique subsaharienne qu'une source d'énergie abordable et fiable, sans laquelle aucune entreprise ne peut réussir. L'énergie électrique est un ingrédient crucial de notre réponse à l'un des plus importants défis de développement de notre temps, le déplacement des familles et de communautés à travers le monde, a déclaré l'administrateur de l'USAID, Mark Green, au 4e sommet annuel Powering Africa. La connectivité permet aux déplacés de rester en contact avec leurs familles et amis, de remettre de l'ordre dans leur vie avant de chercher à s'installer dans un nouvel endroit. Toutefois, en Afrique subsaharienne, des millions de déplacés vivent pour une durée indéterminée dans des camps sans électricité. Et c'est ici que Power Africa intervient. En janvier, l'USAID a annoncé un nouveau partenariat entre Power Africa et Mastercard qui vise à connecter des millions de déplacés d'Afrique au réseau électrique et leur permettre d'accéder aux outils digitaux et à l'Internet. À travers Power Africa, nous avons aidé à mobiliser plus de 20 partenaires allant de Mastercard à Mercy Corp, en passant par Energy Peace Partners. Ensemble, nous œuvrons pour électrifier et connecter 5 camps des réfugiés, 3 en Ouganda et 2 au Kenya, a expliqué l'administrateur Green de l'USAID. Power Africa est réellement un partenariat réussi entre le gouvernement et le secteur privé. Power Africa marche, a dit l'administrateur Green. L'initiative a aidé 58 millions de personnes à accéder à l'électricité grâce au mécanisme du marché et de l'entrepreneuriat. Elle a impliqué plus de 140 partenaires du secteur privé et mis à contribution les autorités de régulation pour faciliter des transactions se chiffrant à 14,5 milliards de dollars. Côté gouvernemental, l'USAID fournit l'assistance technique et des garanties de prêts pour faciliter les investissements. Le Millennium Challenge Corporation prête main forte aux réformes du secteur énergétique. Le département d'État œuvre, de son côté, au renforcement de la gouvernance dans le domaine de l'énergie, tandis que l'Agence pour les investissements privés à l'étranger finance les infrastructures énergétiques à travers le continent. Et cela devrait être le ton de l'Afrique, a déclaré l'administrateur Green de l'USAID. Le continent africain dispose d'un potentiel énorme, ses ressources, ses terres agricoles et ses pâturages, mais surtout l'impressionnant esprit de résilience et de joie qui habite un si grand nombre des habitants. Comme l'a dit le président Trump l'automne dernier en marche de l'Assemblée générale des Nations Unies, en ce qui concerne l'Afrique, les perspectives sont brillantes.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.